Bonjour à tous, il est 15h ici à Paris, 23h à Séoul.
Karine Bellicha.
Au sommaire de ce journal, la Corée du Sud s'enfonce un peu plus dans la crise. Les manifestants des deux bords sont descendus massivement dans la rue aujourd'hui. Le camp du président déchu s'oppose toujours à son arrestation. De l'autre côté, les partisans de l'état de droit entendent protéger la démocratie coréenne. L'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia commence une tournée latino-américaine aujourd'hui avant de retourner dans son pays pour l'investiture contestée de Nicolas Maduro. Première étape, l'Argentine, alors que les litiges entre Buenos Aires et Caracas s'accumulent. Et puis on parlera basket à la fin de cette édition et la mauvaise passe de l'équipe parisienne encore battue hier soir sur son parquet par le FC Barcelone. En Corée du Sud, le face-à-face est toujours tendu entre partisans et adversaires du président déchu. Chaque camp manifeste et compte ses forces. Hier, les enquêteurs sont repartis bredouille devant la détermination de ses services de sécurité à empêcher l'interpellation de Yoon Suk-yeol. Séoul s'enfonce dans la crise. La correspondance de Camille Ruiz.
Les deux camps se font face, mais à plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre, des deux côtés du portail du domaine présidentiel. Celui-ci donne sur une route, mais la voie la plus proche est bloquée, la circulation, elle, quasiment à l'arrêt. Entre les deux manifestations, une quinzaine de bus policiers et des barrages, les forces de l'ordre et les journalistes sont les seuls à pouvoir les traverser. Côté sud, les militants en pro-démocratie, ils sont assis par terre, à même le béton, et se distribuent gratuitement boissons chaudes et gâteaux. On peut apercevoir la présence de nombreuses organisations de la société civile grâce à leur drapeau. De l'autre côté, un peu plus au nord, les soutiens du président Yoon Suk-yeol agitent des drapeaux sud-coréens et américains. Les références à Donald Trump sont partout, pancartes, slogans, dessins, car la plupart des électeurs de Yoon mobilisés ici sont de fervents admirateurs du milliardaire. Cette base électorale ultra-conservatrice chrétienne est présente devant la résidence presque 24 heures sur 24, et ce depuis qu'un tribunal de Séoul a délivré un mandat d'arrêt contre le chef d'État le 31 décembre dernier. Un mandat qui expire lundi prochain. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En Birmanie, la junte annonce l'amnistie de 6000 prisonniers, une amnistie à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Depuis son coup d'État en 2021, l'armée a arrêté des milliers de personnes. En Cisjordanie, occupée à présent, la tension est forte après un raid de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés de Naplouse. Un Palestinien a été tué, 9 autres blessés. L'armée affirme avoir riposté à une attaque lors d'une opération antiterroriste. La Cisjordanie occupée, qui est par ailleurs en proie à une lutte entre factions palestiniennes, de violents affrontements ont opposé à Jenin les forces de l'autorité palestinienne et des groupes armés, notamment le Hamas et le djihad islamique. C'est pour la couverture de ces événements qu'Al Jazeera, la chaîne qatarienne, aurait été empêchée d'émettre en Cisjordanie, une décision prise par l'autorité palestinienne. Écoutez la réaction d'Ahmed Rajabi, il est journaliste palestinien en Cisjordanie et inquiet pour la suite.
J'ai été surpris par cette décision du côté palestinien, d'autant plus que le bureau d'Al Jazeera avait déjà été fermé par les autorités israéliennes. Je n'ai pas vu de raison particulière qui pourrait justifier une telle action. Cette décision rend plus difficile le travail des journalistes pour raconter la vérité, et cela contribue aussi à augmenter les attaques contre les reporters d'Al Jazeera, des attaques à la fois verbales et physiques. On dirait que les autorités palestiniennes veulent contrôler l'information, limiter la liberté des journalistes. Personnellement, cela m'a rendu plus prudent parce que je pourrais être victime d'harcèlement comme mes collègues. Récemment, l'autorité palestinienne est très sensible à toute couverture de ces opérations de sécurité dans le camp de réfugiés de Jenin et n'accepte aucun reportage qui ne s'aligne pas sur la politique qu'elle pratique dans le camp.
Ahmed Rajabi, journaliste palestinien en Cisjordanie occupée, interrogé par Nicolas Roca. Toujours pas de répit dans la bande de Gaza non plus. Plusieurs frappes israéliennes ont fait 19 morts ce samedi dans l'enclave palestinienne. Petite lueur d'espoir, les négociations pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages ont repris à Doha. Plusieurs tentatives ont avorté depuis le début de la guerre il y a 15 mois. Seule une seule trêve avait été conclue en novembre 2023. Edmundo González Urrutia a quitté l'Espagne pour retourner sur le continent américain. Sa destination finale est le Venezuela. L'opposant compte bien rentrer dans le pays pour contester à nouveau la réélection de Nicolas Maduro. En attendant, il veut compter ses soutiens et débute une tournée régionale. Première étape, l'Argentine. Il doit s'entretenir avec le président Javier Milei à Buenos Aires. Cette visite intervient en pleine escalade des tensions entre Buenos Aires et Caracas. Théo Conscience.
Les relations entre Buenos Aires et Caracas sont à couteau tiré depuis l'arrestation au Venezuela d'un gendarme argentin le 8 décembre dernier. Arrêté alors qu'il passait la frontière avec la Colombie pour aller visiter sa compagne, Nahuel Gacho est accusé d'espionnage terroriste par le régime chaviste. Le gouvernement de Javier Milei estime que Caracas utilise le gendarme comme un otage et a déposé plainte jeudi devant la Cour pénale internationale pour détention arbitraire et disparition forcée. Quelques heures plus tard, le gouvernement vénézuélien a publié des images du gendarme censé constituer une preuve de vie. Javier Milei avait été l'un des premiers dirigeants à reconnaître Edmundo González Urrutia comme vainqueur incontestable de l'élection présidentielle vénézuélienne. En réponse, Nicolas Maduro avait expulsé les diplomates argentins présents dans le pays. Ce samedi, le président argentin réaffirmera cette position en recevant l'opposant vénézuélien qui a promis qu'il rentrerait dans son pays pour prendre ses fonctions le 10 janvier en dépit d'un mandat d'arrêt et d'une récompense de 100 000 dollars pour toute information contribuant à sa capture. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Aux États-Unis, Mike Johnson a été réélu au poste de président de la Chambre des représentants, malgré l'opposition d'une partie des élus républicains. Finalement, les récalcitrants sont rentrés dans le rang. Un premier test d'influence pour Donald Trump, qui avait clairement soutenu Mike Johnson. Le président élu a donc réussi à tenir ses troupes avant son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Et c'est le 10 janvier, 10 jours avant son investiture, que Donald Trump connaîtra sa peine dans l'affaire Stormy Daniels. En mai dernier, il a été reconnu coupable d'avoir dissimulé des paiements à cette actrice porno pour obtenir son silence sur leur relation. Le juge précise que la prison ferme est exclue. Sur son réseau social, le milliardaire dénonce une attaque politique illégitime et une mascarade. En France, les syndicats agricoles seront reçus par le Premier ministre le 13 janvier, trop tard pour la coordination rurale qui maintient son appel à manifester à Paris et partout en France. À partir de demain, le deuxième syndicat du secteur entend obtenir des garanties du nouveau gouvernement pour la défense d'une agriculture française broyée, dit-il, par les normes européennes et le libre-échange. Le Paris Basketball continue d'attirer les foules et de voir défiler les cadors européens pour sa première participation à l'Euroleague. Hier soir, dans un match délocalisé à l'Accor Arena de Bercy, le FC Barcelone s'est imposé sur le parquet parisien 90-79. Quatrième défaite consécutive du club français. Après avoir fait une entrée tonitruante au plus haut niveau et enchaîné les victoires de prestige jusqu'à la mi-décembre, les Parisiens traversent une zone de turbulence. Victor Missistrano.
Jusqu'au bout, les 15 000 supporters auront poussé, sans jamais vraiment y croire, capables d'humilier le Barça chez lui au match aller. Paris a cette fois couru après le score toute la partie. Hervé quitte les tribunes l'air résigné avec une petite explication.
Fête de fin d'année, épuisement, fatigue, le cumul entre le championnat, l'Euroleague, ça fait beaucoup.
L'ailier parisien Banjassi refuse de justifier ce trou d'air et le manque de réussite au tir de son équipe par cette cadence infernale.
Si on parle de fatigue, je veux dire, c'est tout le monde est concerné. On joue tous plus ou moins le nombre de matchs.
Je pense pas que ça se soit de la fatigue.
Son coéquipier Nadir Ifi abonde, lui qui a tout tenté pour revenir au score.
Voilà, on sait que la saison est très longue. Chacun fait son maximum pour récupérer au mieux. Et voilà, on peut trouver beaucoup d'excuses, mais il faut devenir meilleur pour gagner des matchs.
Car c'est aussi l'adversité qui augmente. L'Europe, désormais prévenue. Après sa série de 11 victoires d'affilée, Paris n'avance plus masqué.
Voilà, on était un peu la nouvelle équipe en Euroleague et on a surpris. Maintenant, les équipes, elles sont plus prêtes.
Les équipes s'adaptent. C'est plutôt normal que les matchs soient de plus en plus difficiles. On prend conscience quand même qu'il faut qu'on sorte de cette mauvaise phase. Si je connais mes gars, on va relever la tête.
Ils pourront compter sur leur infatigable public car l'engouement pour le tout jeune club parisien ne semble pas prêt de s'estomper.
Et au classement, Paris chute à la quatrième place. Seules les 6 premières équipes de cette poule unique de 18 se qualifieront directement pour la phase finale de l'Euroleague. Enfin, la doyenne de l'humanité est décédée. Il s'agit d'une japonaise, Tomiko Itoka. Elle avait 116 ans. Elle vivait dans le sud du Japon, un pays où les centenaires sont nombreux. Ils sont près de 100 000 dans le pays, en très grande majorité des femmes. Voilà, il est quasi 15h10 ici sur RFI à Paris. restez à l'écoute de la Radio du Monde.